Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Dossier bizarre. C'est le hey, j'ai perdu le compte. On est rendu à quoi là? On a commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7e épisode de la 4e saison. Et vous êtes bien présents. Les codes d'écoute, le nombre d'écoutes explose à chaque semaine. Alors on tient à vous remercier. Je suis accompagné de M. Tristan Brunet-Dupont. Bonjour.
Bonjour Jason.
Ça va bien?
Salut tout le monde. Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien. Alors, hey, Halloween s'en vient. Alors, on va faire un petit épisode à saveur Halloween la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, Tristan, c'est toi qui nous présentes quelque chose. Et je dois t'avouer que je n'ai absolument aucune idée où tu nous amènes avec ça.
Ben oui. Tu sais, je me suis dit, moi, je suis un fan de Marvel. Je suis très geek, Jason. Puis, il y a sûrement beaucoup de monde qui nous écoute en ce moment. Vous avez regardé les nouvelles séries Marvel là, avec Loki, avec WandaVision et tout. Et le thème du multivers revient beaucoup dans Marvel. Et le multivers, donc, tu sais, juste ce mot-là, multivers.
Ben écoute, je suis à l'opposé de toi. Je suis ton alter ego dans tout ça. L'univers de Marvel, très honnêtement, puis c'est pas à défaut d'avoir essayé, là, j'ai zéro accroché, Tristan, mais absolument zéro accroché. J'essaye même plus. Quand il y a un nouveau film qui sort, pour moi, là, ça passe là, dans le champ gauche complètement. Je ne m'y intéresse absolument pas. Et j'ai essayé fort, mais zéro. Zéro intérêt. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui fait que ça ne m'attire pas.
Ben, c'est tout à fait légitime, Jason. Puis moi, personnellement, tu vois, je suis un fan. Puis je vais être honnête, comparativement à la plupart des fans Marvel qui trippent sur les nouvelles séries, moi, depuis la fin de Avengers, là, après Endgame...
Oui, que beaucoup de fans, même des fans finis, disaient « Ouais, je pense qu'il devrait prendre un break. »
Ouais. Non, j'ai décroché parce que moi, c'est tout simplement parce que ben, je suis un fan des les trois premiers, là, Iron Man, Captain America, puis Thor. Moi, c'est pas mal ces trois films-là, là, les trois super-héros que j'aimais bien suivre dans Marvel. Puis là, ben, tout le reste, après, c'était le fun. Là, les Avengers, bien sûr, j'aimais ça, mais les millions de séries et de personnages qui ont fait des dérives de ça, je trouve qu'il y a une grosse saveur monétaire là, derrière tout ça. Puis,
ben, c'est ça, on
une
sent...
grosse passe de cash à faire.
Oui, on sent qu'on étire la sauce énormément, puis on fait des ce qu'on appelle des crossovers. Là. Tel personnage, il est mort, mais on va le faire revenir dans telle série parce qu'il va croiser Spider-Man, puis il y a une petite scène d'une minute. Puis, on utilise énormément ça pour finalement faire sortir l'argent des poches des gens.
Ben oui, exactement. Donc, petite critique improvisée sur
ben Marvel. Oui! Hey! Mais multivers ou multiverse en anglais, Tristan, c'est pas unique à l'univers Marvel, ça.
Non, ben non, vraiment pas. Puis tu sais, je veux vraiment pas utiliser Marvel. J'ai parlé de Marvel pour le plugger, mais je m'intéresse au multivers, Jason, depuis que je suis gamin.
Donc, ah, ben là, même dans ce temps-là, les Marvel, là, c'était des bandes dessinées, c'était des comics qu'on achetait, ou ben non, des émissions le samedi matin là, en dessin animé. C'était pas la machine incroyable pour imprimer de l'argent qu'on connaît aujourd'hui.
Non, exactement. Donc, le multivers, oui, je me suis dit, on va faire ça aujourd'hui, Jason, on va s'amuser. C'est vraiment pour avoir du fun. Ça se peut même que l'émission soit un peu plus courte, qui sait, parce que moi, je vais aborder plusieurs thématiques autour de ça. L'univers, ça me passionne, tu le sais, Jason.
Oui.
Vous commencez à me connaître, je fais souvent des exemples, des allusions aux dimensions. Hein. Je pense que j'ai dit le mot dimension 50 000 fois depuis le début du podcast.
Alors, ben oui, ben, faudrait faire un décompte, on mandate quelqu'un, là. Pouvez-vous réécouter tous les épisodes et prenez une note à chaque fois que Tristan dit le mot « univers
». Donc j'ai fait aussi une couple de sujets, hein. Donc les illusions optiques, à un moment donné, on est allé souvent dans l'espace avec des sujets que j'ai abordés, donc là je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'un sujet qui me passionne, on va s'amuser, on va parler du multivers aujourd'hui. On est un peu dans le temps de l'Halloween, c'est étrange, mais peut-être que ça va même vous faire peur dans certains moments, là, parce que ça donne un peu la chair de poule, un peu, tu sais, quand on commence à penser à des sujets là, super intenses, puis là, on se perd dans notre tête, on parle souvent du vertige. Hein.
Oui, c'est tout
ça. Moi, je ne veux pas entendre parler de l'univers, ça me donne le vertige.
Oui, l'immensité, l'infini de l'univers. Quand on s'assoit et on se met à y penser à quel point on est petit dans ça, à un moment donné, oui, on peut se sentir un peu mal.
Ben oui, c'est ça, exactement. Donc là, imaginez aujourd'hui, je vais tenter de vous de déclencher ce vertige-là chez vous aujourd'hui parce qu'on va aller encore plus loin. On va essayer de dépasser les limites de l'infini de l'univers, Jason.
OK, excellent. Fait qu'on y va à la base, là. C'est quoi un multivers? C'est quoi le multivers? Parce que, ben, c'est quoi cette bébite-là?
Ben, on va remonter à la première, je dirais. Là. C'est qui a pensé à ça? Les premiers qui ont pensé à ça au niveau historique. C'est drôle, c'est surprenant parce que ça date quand même. Là, la première théorie là, c'est, qui marque un peu là, l'histoire du multivers, c'est Giordano Bruno.
Oh.
Qui, lui, là, il va, c'est un philosophe napolitain, alors de l'Italie. Et en 1584, lui, il va dire l'infini, l'univers des mondes. Donc, il va écrire une thèse qui s'appelle l'infini, l'univers des mondes, qui évoque des mondes distincts les uns des autres. Toutefois, Bruno ne concevait pas l'existence d'une multitude d'univers, mais soutenait plutôt que l'univers était infini et dépourvu de centre, incluant une multitude de mondes centrés sur leur étoile. Donc, en gros, ce que je résume en bref dans mes mots, c'est le premier qui a dit, moi, ce que je pense, là, c'est que il y a plein d'univers, un peu comme notre monde, le système solaire, là, où justement, tu as comme le soleil, mais il y en a plein de ça dans l'univers. Donc, on est quand même en 1584.
Ben, oui, c'est assez novateur comme manière de penser, surtout qu'à cette époque-là, l'Église régissait absolument tout. L'homme était unique. Tout tournait autour de notre petit nombril d'humain. Ce genre de pensée-là, ce genre de discours-là, c'était passible là, d'avoir des conséquences assez graves pour la personne qui osait parler de ça.
Ben oui, c'est ça, exact. Donc, on est en 1584. Lui, c'est le premier, justement, qui dit, regardez, là, on n'est pas seulement un monde là, avec une étoile et tout. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a plein de ça et qu'en fait, il n'y a pas de centre de l'univers. Donc, c'est plein de petits mondes. Lui, les petits mondes qu'il décrivait, c'est donc des systèmes solaires, un système planétaire qui tourne autour d'une étoile. Lui, il avait déjà catché ça.
Ben oui, ben c'est quand même particulier de voir que ça remonte à si loin, ce genre de pensée-là. Ça semble un peu abstrait, sa manière de l'exprimer. On dirait qu'il est comme pas sûr vraiment de comment l'expliquer, mais on sent qu'il s'est levé un matin lui, puis il a dit « ça se peut pas qu'il y ait juste ça ». Ça se peut pas qu'on soit juste limité à ce qu'on voit, ce qui est tangible dans notre vie actuellement. J'ai l'impression qu'il y a plus quelque part. Puis on dirait qu'il essayait de trouver une manière de l'exprimer, puis que c'était pas évident pour lui.
Non, c'est ça, exactement. C'était un peu flou, hein, les premières théories.
Oui.
Même quand on pense, bon, la Terre, le Soleil, là, on disait, la Terre, c'est le centre de l'univers. Puis là, finalement, on a compris que non. Les premières théories scientifiques, on le comprenait, mais la visualisation dans l'univers était plus difficile parce qu'on n'avait pas encore envoyé de satellites dans l'espace.
Ouais, ouais.
On ne voyait pas vraiment, on comprenait de plus en plus, mais on ne le voyait pas. Donc ça, c'est juste pour dire au niveau historique que depuis à peu près 1500, il y a vraiment cette idée-là qui est apparue tranquillement du fait qu'il y a plusieurs mondes. Mais ça, encore là, c'est des systèmes solaires. On ne parle pas de plusieurs univers.
Donc, non, c'est ça.
On met la table. On met la table tranquillement. On met la nappe, là, puis on met
le système. Ben oui, là, on va commencer à placer les assiettes, puis tranquillement,
c'est
pas vite, mettre le centre.
Exactement.
Donc là, on s'enligne à partir de là. Et là, lui, c'est un philosophe. Et tranquillement, pas vite, il y a des éléments scientifiques qui vont venir se rattacher à cette manière de penser-là qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout seul. Et tranquillement, pas vite, il y a des éléments qui s'y rajoutent, j'imagine, pour arriver en 2021, puis encore parler de ça.
Ben oui, c'est ça. C'est vraiment en 1930 à peu près, là, Jason, donc début du 20e siècle, là, qu'on a vraiment, il y a eu un bond énorme au niveau de la connaissance scientifique avec Einstein, hein, la théorie de la relativité, de la gravité. Puis là, on comprend beaucoup mieux l'univers. C'est pourquoi il y a plein de scientifiques, de philosophes qui ont commencé à pousser un peu là, l'imaginaire, un peu, de pousser la conception, la compréhension de l'univers, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, là, en 2021, c'est que l'univers, bon, c'est le Big Bang, hein?
Oui, bien, tout commence là. On est capable de revenir dans le temps plus ou moins en utilisant des théories, puis bon, des observations qu'on a faites. On dit qu'on arrive maintenant à quelques instants après le Big Bang. Le Big Bang, et qu'on on a une espèce de conception maintenant là, de cet instant de chaos incroyable qui a fini par créer le monde qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça, exact. Donc, pour bien comprendre le multivers, il faut comprendre notre univers. Il y a environ 14 milliards d'années, il y a eu, justement, là, le rassemblement de toutes les énergies, les particules qui a créé une explosion gigantesque et qui a créé l'univers, notre univers. et toutes les planètes, les particules, les soleils, les galaxies, c'est en expansion, hein, parce que c'est une explosion. Donc, puis, je vous imaginez une grosse explosion. Ben là, les particules qui s'étendent.
Ils s'éloignent toutes une de l'autre.
C'est ça. Hey,
écoute, Tristan, une parenthèse ici pour expliquer ça. Là, j'avais un cours d'astronomie quand j'étais au cégep, il y a comme dans le temps des dinosaures. Là, et j'avais un prof, un astrophysicien. Cet astrophysicien-là prenait son café une fois de temps en temps avec nul autre que M. Hubert Reeves, qui est quand même un philosophe et un astrophysicien. Là, absolument, là, il est d'un autre monde. Là, il est dans une catégorie à part. Il est au-dessus de nous autres complètement. Et il avait dit, quand vous pensez à l'univers qui est en expansion complète tout le temps et que tout s'éloigne un de l'autre, il dit le meilleur truc là, pour le visualiser, prenez un ballon, faites des petits points noirs avec un marqueur sur le ballon et là, gonflez-le un petit peu. Puis là, regardez comment les points sont disposés, gonflez-le un peu plus. Puis il dit, chaque point va s'éloigner de chaque autre point tout le temps. Dès que vous allez le gonfler, la distance va augmenter entre chaque point. Ben, il dit, c'est ça l'univers. Puis j'ai trouvé ça, là, mais tellement simple, mais en même temps, la meilleure manière de visualiser le concept de l'univers qui est toujours en expansion.
Ben oui, c'est une très bonne, c'est une très belle image. Et puis, on sait aussi hein, que ben, ça ralentit de plus en plus là, parce que ben, c'est une explosion. Donc, à un moment donné, les planètes, les galaxies et tout vont arrêter de s'étendre parce qu'on ralentit. C'est comme on est encore dans l'élan de l'explosion.
Ouais.
Mais plus le temps passe, plus l'élan, justement, rapetisse. Et à un moment donné, cette expansion va ralentir à un tel point que on va s'arrêter. Mais rendu là à partir de cette théorie-là, avant d'aller dans le multivers, il y avait déjà des scientifiques qui avaient dit, lorsque toutes les planètes et les galaxies vont arrêter d'expansionner, ben il va avoir tranquillement pas vite, se recoller, se recentrer, retourner vers le centre parce qu'ils vont s'attirer, la gravité va faire en sorte que toutes les planètes et les galaxies vont s'attirer et ça va prendre le même temps environ pour qu'on se recentre dans un amas de matière au centre. Puis là, il va y avoir un autre Big Bang. Boum! Tu disais que ça va comme un peu comme un Big Bang, là, fou, ça, toutes les particules genre s'étendent, puis après ça, on revient au centre, un autre Big Bang, après ça on revient au centre, un autre Big Bang. Ça, c'est une théorie, là.
C'est un peu comme débrancher son routeur quand ça va pas bien pour faire un reset. On débranche le routeur, on attend 30 secondes, on rebranche le routeur, puis là, Internet revient. C'est un peu ça. On revient au point de départ et on fait un reset plus ou moins de l'univers pour repartir à nouveau.
C'est ça, exact. Mais ça reste une théorie. Là, on va y aller plus dans le présent.
Mais c'est de la science très théorique qu'on parle aujourd'hui, hein, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on n'a absolument aucun moyen de savoir actuellement avec la science actuelle.
Ben c'est ça, exactement. Donc, tu sais, je voulais juste mettre les bases de la connaissance de notre univers présentement, actuellement. Bon, le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, là, les planètes, les galaxies, on est en train de s'étendre dans l'univers tranquillement, pas vite. Et là, à partir de maintenant, bien, la théorie du multivers apparaît. Là, on va commencer avec, il y a quatre théories de multivers différents.
OK.
La première, là, c'est le cosmologiste américain Max Tegmark qui a établi une classification des différentes théories de multivers possibles selon quatre niveaux.
OK.
Le premier niveau, là, on va commencer avec ça, c'est vraiment spécial. C'est qu'imagine, là, on dit que l'univers est infini. OK. Donc, à un moment donné, on avance, on dirige de plus en plus loin dans l'univers, mais toutes les particules qui proviennent du Big Bang, il n'y en avait pas à l'infini.
Ben non, mais c'est ça.
Fait qu'à un moment donné, on va arriver quand même au bout, il n'y a pas un mur, là, mais on va arriver à la limite des particules puis de la matière qui proviennent de notre Big Bang. Donc, tu sais, à un moment donné, on va arriver, puis il y avait juste, c'était comme la dernière galaxie, tu sais. Mais là, il y a comme un noir, un vide derrière ça. Puis là, il y a comme une théorie qui dit qu'imagine là, qu'on avance, qu'on continue à avancer encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Bien, on pourrait peut-être se rendre, en fait, si on dit que l'univers est infini, bien, il y a peut-être plein d'autres Big Bang, OK, partout dans l'infini de l'espace. Et il y a juste un vide extrêmement huge entre chaque Big Bang.
Genre. Ah!
Donc là, imagine, là, on a juste comme plein d'univers qui sont séparés par un vide noir, un peu comme un néant, mais immense. Donc, ça, c'est la première théorie du multivers. Ça serait en sorte que, on parle souvent du Big Bang puis de notre univers, mais imaginez qu'il y a un vide énorme entre notre univers puis un autre univers qui provient d'un autre Big Bang à des centaines de milliards, de milliards, de milliards d'années-lumière de nous.
T'sais. Mais ça, j'ai pas de misère, vois-tu, avec ça, à le concevoir, parce qu'on a commencé il y a très, très, très longtemps, on remonte à des milliers d'années, on a commencé avec la découverte de notre planète, on a commencé à réaliser qu'on était sur une planète, puis après ça, on a réalisé qu'on avait notre Soleil, qu'il y avait d'autres planètes. Alors là, on a commencé à étendre un peu nos connaissances à notre système solaire. Et là, tranquillement, pas vite, notre système solaire, on s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres systèmes solaires parce qu'il y avait des étoiles. Et les étoiles, c'est des systèmes solaires. Et là, ben, on avait une galaxie qui est composée de systèmes solaires, qui sont composés d'étoiles, qui sont composés de planètes. Et là, tranquillement, pas vite, ben là, on a une carte qui voit des galaxies partout qui sont mitoyennes, qui sont voisines une de l'autre. Alors, pourquoi pas étendre ça encore plus loin, puis là, voir des univers qui seraient voisines une de l'autre, c'est peut-être la prochaine étape. La prochaine découverte sera peut-être de dire, ben, finalement, il y a plus qu'un univers.
Exactement, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Donc ça, c'est une théorie qui plaît beaucoup, en fait, à des physiciens, des théoriciens.
Ben, ça, il faut le dire tout de suite, Tristan, puis je veux dire, on va probablement l'aborder plus loin, mais c'est pas de la fantaisie, ça, là, dans le sens que il y a des physiciens, des astrophysiciens, des philosophes, des scientifiques très connus avec une réputation en béton qui disent qu'il y a possibilité d'avoir plus qu'un univers. C'est pas des complotistes qui vivent dans le sous-sol de leur mère puis qui vont sur Internet tout le temps puis qui sortent jamais dehors puis qui n'ont pas vraiment de connaissances. C'est vraiment des gens avec des connaissances très pointues qui vont dire, puis ils défendent pas nécessairement la théorie, mais ils émettent la théorie de dire il y a peut-être plus qu'un univers. Juste rapidement, des noms comme ça, puis un peut-être là, qui est plus connu, là, parce qu'on le voit souvent à la télévision, c'est Neil deGrasse Tyson, qui fait partie de ceux qui disent « Restez l'esprit ouvert, ça se peut qu'il y ait d'autres choses, là, parce qu'on ne connaît pas tout. » C'est pas c'est loin, moi, ce monsieur-là, je peux pas prétendre avoir ses connaissances. Et il fait partie de ceux qui disent « Peut-être, il y a peut-être quelque chose. » Alors, c'est pas des deux de pique là, qui mettent de l'avant ce genre de théorie-là.
Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je suis loin d'être un scientifique ou un physicien théoricien. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à le dire, là, on s'amuse un peu.
Oui, absolument.
Et puis je vais un peu dans mes mots et tout. Là, ben, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent en ce moment, peut-être qu'ils vont rire de moi parce qu'ils vont dire « Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, en gros, il y a une explication de physique quantique, là, mathématique extrêmement complexe derrière tout ça. » Fait que je vais vraiment
on
dans mes mots.
On vulgarise à l'extrême aujourd'hui.
C'est ça, exactement. Donc, la première théorie, c'est ça. Hein, c'est le vide entre chaque univers. Pourquoi pas? Hein, tu sais, de plus en plus, justement, on se positionne dans l'univers. Puis là, déjà, ça nous donne le vertige quand on voit la grosseur de notre propre système solaire. Là, comme tu dis, après ça, notre galaxie. Après ça, les milliards de galaxies. Là, ça donne le vertige. Mais pourquoi pas pousser la note encore plus loin, justement?
Ben oui, pourquoi pas?
T'sais, donc, puis là, la première théorie, je tiens à le dire, selon les scientifiques, là, selon... Max Tegmark, bon, cette première vision du multivers, les autres univers auraient les mêmes lois scientifiques, là, de la physique, puis de la gravité, puis de la relativité. Tout ça serait pareil.
OK.
Donc, il n'y aurait pas de... On serait comme sur le même plateau.
Oui.
Il n'y a rien qui serait différent. On ne serait pas dans une autre dimension. Tout serait là, dans le même espace.
Excellent. Okay.
La deuxième théorie, ben, le second niveau, c'est le multivers issu de la théorie de l'inflation d'Alan Gott.
Oh.
Complété par Andrew Linde.
Inflation, on ne parle pas du prix de l'essence. J'imagine que le prix de l'essence a fait tout un bond dans les derniers jours ici, en tout cas. Mais bon, ouais, vas-y, excuse-moi, je te laisse aller.
De multiples, là, la deuxième théorie, c'est que de multiples univers coexistent, mais chacun issu de son propre Big Bang. À la différence du multivers 1, ces multivers peuvent avoir des lois physiques différentes. Donc, dans le fond, Gabriel Veneziano et d'autres physiciens là, parlent d'un paysage cosmique comme un paysage qui ressemblerait à des bulles de champagne. Donc, là, imaginez des Big Bang un peu partout là, dans l'univers, mais qui créeraient des lois physiques complètement différentes. Donc, ils disent que ça pourrait ressembler là, à un multivers de bulles de champagne parce qu'à tout moment, il apparaissent des univers qui vont se déployer puis disparaître, un peu comme des bulles de champagne.
Ah.
Donc, ça, c'est... Okay. Puis, en gros, la seule différence avec le premier, là, c'est que les lois physiques peuvent être différentes. Donc, dans chaque univers, il pourrait y avoir des trucs complètement différent qu'on imagine dans notre univers. Là. Imaginez, là, je sais pas, une galaxie qui flotte sur de l'eau, ou bien de l'eau dans l'espace, plutôt que l'espace est un vide. T'sais, tout pourrait être différent. Là, genre.
Ben, c'est ça, puis c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement concevoir parce que on a une manière de penser qui est dans une boîte, et cette boîte-là, c'est les lois qu'on connaît, les lois de la physique, les lois biologiques, les lois de tout ce qu'on a dans notre monde. On s'est créé une boîte, puis tout rentre dans cette boîte-là. Alors, si on sort de cette boîte-là, on est dans l'inconnu total.
Exactement, exactement. Donc, la deuxième théorie, c'est ça, ça fout un peu la chienne.
Ben oui, elle m'énerve un peu, celle-là.
Non, c'est ça, c'est tout pourrait être différent. Là. Donc, peu importe ce que vous imaginez comme la gravité, l'espace, le temps, tout ça, là, ben, dans d'autres univers, le Big Bang aurait pu déstabiliser ces lois mathématiques qu'on connaît. Donc, il pourrait y avoir des univers où, justement, tout ce qu'on imagine peut être possible dans la mesure du possible. Dans la mesure... Fait que, rendu là, on laisse aller notre imagination.
Ben oui.
On peut se donner la chair de poule si on veut.
Ben oui, c'est comme c'est ça. Hein? Il n'y a pas de limite vraiment, non?
Exactement. La troisième théorie, Jason, je l'adore.
Oh.
C'est une de mes préférées. C'est le multivers niveau 3, celui de Hugh Everett, où l'univers ainsi que l'observateur lui-même fourchent à chaque observation d'état quantique. Donc, en gros, là, ça veut dire que ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la vie, imaginez là, que, en fait, il y a un univers pour chaque action que l'on pose. Donc, si vous avez, mettons, déjà, demandé, vous étiez à la croisée des chemins dans votre vie, là, puis là, vous vous êtes dit, ah, ben, tu sais, je vais aller l'utiliser dans tel programme pour devenir telle personne, puis faire telle carrière, mais il y a une partie de moi qui aimerait ça aussi aller dans le domaine des arts au lieu de la politique ou l'armée ou quoi que ce soit. Ben, dites-vous qu'en ce moment, il y a tellement de possibilités dans l'univers qu'il y a clairement, en gros, une infinité de réalité avec différents vous, où il y a plein de vous, en fait. Là.
Je saigne du nez, là, moi, là. J'ai saigné du nez, je pense. Mais écoute, c'est donc bien le fun, celle-là.
Oui, non, c'est ça. Puis ils disent que ça, c'est vraiment spécial parce que ça pourrait être dans notre même univers. Y aurait comme des portes différentes. Là. Donc, en ce moment, pendant qu'on se parle, y aurait comme un quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, qui séparerait toutes ces dimensions-là où il y a des centaines de millions de vous dans différents mondes. Il y en a un que vous êtes pompier, l'autre où vous êtes soldat, l'autre où vous êtes premier ministre de votre pays, l'autre où vous êtes itinérant parce que rien de ce que vous aviez fait a marché, puis vous avez eu de la malchance, puis tout.
Ça veut dire que chaque choix qu'on fait, finalement, crée une fourche. C'est ce qu'il disait, là. Il y a une fourche qui se crée à chaque décision qu'on prend. Fait que, mettons, amusons-nous avec ça, Tristan. Là.
Oui.
Admettons que toi, il y a 3 ans, maintenant, t'avais décidé, non, non, finalement, je n'appliquerai pas sur un emploi à Havre-Saint-Pierre, je n'irai pas travailler à la radio d'Havre-Saint-Pierre, c'est trop loin, ça ne me tente pas vraiment. À partir de là, cette petite décision-là où tu as décidé d'appliquer sur un autre poste plutôt que celui-là, tu n'es pas venu à Havre-Saint-Pierre, on ne s'est pas connu. On n'a jamais démarré d'aussi bizarre ensemble, donc on n'est pas en train de se parler actuellement.
Non, c'est ça, exactement. Puis
ça
c'est
donne ça. Mal à la tête, ça.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que cette théorie-là de Hugh Everett, dit que pourquoi ça ne pourrait pas arriver, soit pour deux explications, soit qu'il y a des dimensions qu'on ne connaît pas, excuse-moi, le chat est
en train de... Ben oui, je me dis, mon doux, il y a un chat qui est apparu en plus dans tout ça. C'est parfait. Il y a un chat dans notre univers soudainement. Moi, je suis comblé.
Dans Rick and Morty, là, genre. C'est juste trop weird. Mais ouais, dans le fond, c'est genre, on peut s'amuser soit que par rapport à l'infinité de possibilités de l'univers, parce que si l'univers est infini, ben, au niveau des probabilités, il pourrait avoir infinie planète Terre. Puis dans chaque planète Terre, ben, il y a un vous qui est différent. Ou que dans notre propre univers, il y a juste des millions de dimensions différentes où justement tous les choix qu'on fait font en sorte qu'en ce moment, du côté d'une porte, dans une porte cachée, il y a comme des portes, infinies de portes où il y a plein de réalités différentes. Voilà, je cherchais le terme. Donc des réalités différentes où justement vous êtes le vous d'un autre univers.
Tristan, t'es peut-être trop jeune toi, pour avoir connu ça. Est-ce que tu as connu les livres dont vous êtes le héros? T'as-tu connu ça, les livres dont vous êtes le héros?
Non.
Non, écoute, c'était un livre, tu commençais, puis là, ben, chaque chapitre était numéroté, comme dans n'importe quel livre, mais là, tu lisais le chapitre 1 qui disait, mettons, Vous vous réveillez dans la forêt et là, soudainement, vous entendez un bruit lugubre et il y a une caverne à votre gauche. Que faites-vous? Puis là, tu dis, t'avais le choix. Mettons, je vais investiguer le bruit lugubre ou je rentre dans la caverne pour me protéger. Alors là, si tu allais voir le bruit, tu allais au chapitre 13. Et si tu rentrais dans la caverne, tu allais au chapitre 24. Et là, tu tournais les pages au chapitre 24, mettons, parce que tu vas dans la caverne. Vous entrez dans la caverne. C'est sombre. Vous avez en votre possession un silex et une torche. Essayez-vous d'allumer le silex ou bien vous restez dans la noirceur. Puis là, on disait, si vous allumez votre torche, vous allez au chapitre 8. Et si vous allez vous rester dans la noirceur, vous allez au chapitre 33. Et là, on faisait toute l'aventure comme ça. Et étant donné que c'était facile, ben, on trichait tout le monde. Fait que là, on allait voir c'était quoi le résultat de notre choix. On disait, ouais, j'aime pas trop ça, je vais aller voir l'autre à la place. Mais chaque choix nous amenait dans une ligne, dans une fourche différente pour arriver finalement puis mourir ou bien non résoudre l'histoire et arriver à la bonne conclusion. Des fois, il y avait plus qu'une conclusion. Des fois, il y en avait deux, il y en avait trois, il y en avait quatre. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser, honnêtement. Fait que s'il y a des plus vieux là, qui écoutent là, actuellement, ils vont dire « Hey oui, je me souviens de ça! » Puis là, ils vont se souvenir des meilleurs qu'ils ont fait puis qui trichaient eux autres aussi.
Ah, c'est excellent, c'est une très bonne image.
Mais c'est automatiquement, c'est ce qui m'est venu dans la tête tout de suite. Quand tu as commencé à détailler ça, je me suis dit, ben, c'est comme un livre dont vous êtes le héros.
Ah, ça prend, c'est excellent, ça. C'est une très bonne image, Jason. Donc écoute, moi peut-être que je fais une courte pause.
Ben, tu veux-tu exposer la quatrième puis on y revient ou bien trop grosse puis t'aimes mieux faire la pause avant?
Je suis en train de regarder. Ah ben en fait la quatrième est bien simple.
Ah ben allons-y avec la quatrième, puis on va faire la pause après, puis on va revenir.
C'est bon, la quatrième, là, en fait, c'est, tu sais, je vous décris, là, c'est le multivers de niveau 4 contient la notion de multivers constitué de structures mathématiques variées, c'est-à-dire que l'univers ne serait que mathématique, l'hypothèse de l'univers mathématique, donc il n'y a pas de matière solide, ultime, mais seulement des rapports mathématiques qui engendrent la réalité.
Oh boy! OK. Je peux pas dire que je la comprends, celle-là, honnêtement. c'est un peu complexe. Mais on le sait que la matière est composée principalement de vide, ça, on le sait. Là, les molécules, tout ce qu'on a, la table sur laquelle je suis installé présentement, je passe pas au travers parce que mes particules frappent les particules de la table, mais c'est quand même composé de vide. En chaque particule, il y a plus de vide qu'il y a de matière ou de particules solides. Ça, on le comprend. Mais est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on dit que tout est mathématique puis ça donne ce qu'on a autour de nous autres? Ça, j'avoue que c'est ça me dépasse.
moi, ce que j'ai comme idée, là, c'est que les scientifiques sont trop brillants. Là, les mathématiciens, genre, beaucoup trop intelligents sur Terre, en fait, ils ont juste piqué un burn-out à un moment donné. Genre, ils ont juste fait « Mais tout est mathématique! »
Ouais, ben c'est l'impression que ça me donne.
« La réalité n'existe pas, ce ne sont que des calculs! » Là, ils ont juste écrit ça, puis ils ont dit « J'en suis en train de virer fou », puis imaginez une pièce où tu as juste des calculs partout autour.
Ouais, comme le film « Beautiful Mind », le mathématicien qui est schizophrène, c'est un génie des mathématiques, mais c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes mentaux assez graves. Et les deux viennent en choc à un moment donné. C'est un peu à quoi ça m'a fait penser, là, à ta description, parce que je le sais que tout peut être... décomposé en équations mathématiques, ça, je suis entièrement d'accord. La science et la physique, les mathématiques, tout ça peut être combiné ensemble pour expliquer une planche de bois, ça, je comprends. Mais de là à dire que l'univers est multiple parce que tout est mathématique, là, honnêtement, je ne suis plus rendu là, je ne suis plus là, pas en tout.
Pour vrai, fallait que je le fasse, ce dossier-là. J'avoue qu'il est un peu différent, tu sais, puis je tiens à le dire, là. C'était lourd, mais là, je voulais le faire depuis une couple de mois. Je me suis dit, gars, ça se peut que ça va être plus court, ça va être différent, puis tout, mais je voulais l'aborder.
Ben, écoute, c'est tellement une conversation, le fun à avoir, puis qui donne le vertige, là. C'est étourdissant des bouts, là. C'est comme, wow, attends un peu, les implications de cette manière-là de voir et de penser, c'est quelque chose qui est très, très, très intense. Mais bon, écoute, on a mis la table, on a préparé les quatre théories différentes. On va aller faire une petite pause.
Ben oui,
puis on
j'ai
continue.
Trois autres affaires à apporter après. Là. Trois autres petits dossiers théoriques là, où on peut s'amuser qui ne sont pas dans les quatre théories du multivers, mais par rapport à l'univers en soi, là, j'ai trois autres affaires où on va pouvoir aborder puis s'amuser.
Ben,
on va encore maintenir ce vertige-là. Là.
Écoute, bien avant l'univers de Marvel qui ramène souvent les gens. On parle de multivers, automatiquement, les gens pensent que c'est une partie intégrante de Marvel puis que ça fait partie de ça et que c'est unique à Marvel, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus large. Dans le monde de la littérature, moi, j'ai un exemple. Écoute, je ne pensais pas que ça cadrait aussi bien dans ton sujet d'aujourd'hui, surtout le troisième niveau. Fait que je vais vous en parler un peu plus après la pause, mais j'ai pris en note le troisième niveau et ça cadre parfaitement avec, avec ce que j'ai à vous jaser après. Je pensais pas avoir autant d'affaires à dire, finalement.
Non, c'est excellent. Donc, moi, tu vois, c'est dans les quatre, ma préférée, c'est la première, où le fameux vide, tu sais, entre les univers. Mais la troisième, l'affaire que chaque choix qu'on fait dans une autre dimension, dans un autre univers, ben, ça arrive, tu sais. Je trouve qu'il y a matière à s'amuser avec ça. Là.
Ah, puis elle est tellement belle, cette théorie-là. Elle est tellement parfaite.
Ben oui,
ah,
exact.
Je l'aime, moi.
C'est fou de penser, tu sais, comme un matin, je me suis dit, je vais-tu chercher mon café au Tim ou au McDo? Oui. Ben, il y a le moi de l'autre univers qui, lui, est allé au McDo, puis il y en a un autre qui est allé au Tim.
Ben oui, puis peut-être que celui qui est allé au McDo s'est fait écraser en traversant la rue. C'est aussi niaiseux que ça.
C'est ça, tu sais, moi, il y a tellement eu de choix dans ma vie que je suis tellement passionné par plein d'affaires. Tu me connais, Jason, j'ai failli aller dans l'armée canadienne à un moment donné. Ben, je me dis peut-être qu'en ce moment, il y a un sergent Brunet Dupont dans l'armée canadienne qui fait pas de dossier bizarre, puis qui est en Afghanistan, puis qui est en train de... Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû aller dans l'armée.
Il y a du chemin à faire avec ça, énormément. Fait qu'on va faire une petite pause, Tristan. On est déjà rendu quand même à une trentaine de minutes. Et on va se retrouver après, puis on va continuer à s'amuser avec les multivers.
All right.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Wouf! 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 Wouf!
J'aimerais tant savoir... Qu'est-ce que mon chien dit?
Vous aussi aimeriez savoir ce que raconte votre animal de compagnie? C'est maintenant possible grâce à notre synthétiseur vocal pour animal de compagnie, le Minou Pitou 2000. Le Minou Pitou 2000 peut traduire ce que raconte votre chien.
Viens le beau chien, viens faire un bisou à maman.
Wouf, 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 wouf.
Ça sent pas bon dans ta bouche. Si tu lavais tes dents des fois, je te donnerais des bisous.
Le Minou Pitou 2000 peut également comprendre le langage des chats.
Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, le bon petit minou à moi, mon petit minou, 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 minou? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que fait le beau minou?
J'ai fait caca dans tes souliers.
Oui, avec le Minou Pitou 2000, vous souhaiterez ne jamais avoir su ce que raconte votre animal de compagnie. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries.
Et nous sommes de retour, Jason Lévesque, avec Tristan Brunet-Dupont et son chat qui s'appelle... Il s'appelle Johnny Cash, hein, ton chat?
Ouais, mon chat Johnny Cash qui participe à la conversation. Ben derrière la porte. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, là, mais il capote. Il capote ben raide.
Ah, ben lui, il sent ton autre toi qui est allé chercher son café au McDonald's, finalement, là, qui est présent avec toi dans la pièce. Puis lui, il le sent. Parce que souvent, il y en a des gens qui disent que les animaux perçoivent des choses que les humains peuvent pas percevoir. C'est prouvé à différents niveaux. Hein. Des fois, là, quelques minutes avant un tremblement de terre, la forêt va se vider. Les animaux vont courir tous dans la même direction. Prédateurs avec proie, un à côté de l'autre. Personne s'attaque, on se sauve. Et là, ben 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes après, tremblement de terre majeur, l'épicentre est dans la forêt. Les animaux l'ont senti. Mais au-delà de ça, il y en a qui disent que les chats, les chats vont regarder un mur et se mettre à miauler. On dit qu'ils voient quelque chose que nous, on ne peut pas voir. Il y en a qui vont dire que c'est des esprits, des fantômes. D'autres vont dire qu'ils vont voir dans une autre dimension quelque chose qui se passe. Bref, on dit que c'est les animaux ont une perception extrasensorielle que les humains n'ont pas. Alors, ça cadre bien que Johnny Cash participe dans l'émission aujourd'hui parce que peut-être qu'il perçoit quelque chose qui est dans un tout autre univers, Tristan.
Ben oui, dans une autre dimension. Je suis peut-être en ce moment dans la pièce en train de shaker les petites gâteries. Là,
ben oui.
Je suis en train de dinonner, puis là, il se dit hey, « pourquoi je veux des gâteries? » Peut-être de parler des dimensions perturbe l'espace-temps
et incite
les autres dimensions à se manifester davantage dans notre propre réalité.
Ben voilà, alors, les multivers, on est en train d'explorer ça et c'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe et beaucoup plus scientifique que ce que je croyais. Honnêtement, quand tu me dis on va parler des multivers, Je me suis dit, bon, ben, écoute, je vais me croiser les bras, puis je vais attendre de parler d'Iron Man, puis de Captain America, puis ben, de Spider-Man. Mais Spider-Man, il n'est pas tout à fait dans la même gang, mais il est là pareil, parce que bon, c'est pas le même. C'est Sony qui est propriétaire de Spider-Man, alors que Disney a le reste de l'univers Marvel. Puis bon, ben, je me suis dit, on va parler de ça, puis je vais. Bon, de temps en temps, je vais faire des blagues, mais là, je me rends compte, oh, boy, c'est loin, 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 très loin de ça, là.
Ben oui, vraiment, vraiment. Donc là, tu vois, on a abordé les quatre théories du multivers dans la première partie. Là, pour s'amuser un peu, là, j'ai trois autres petites affaires à vous partager là, pour la deuxième partie de l'émission. Donc, c'est plus pour s'amuser. Là,
ben oui, parce qu'il y a du matière à s'amuser. Là.
Ben oui, exact. Il y a Neil deGrasse, justement, Tyson, c'est ça?
Neil oui, deGrasse, Neil deGrasse Tyson, qui fait partie de ceux qui sont pas nécessairement... Il ne jurera pas dur comme faire qu'il y a d'autres univers ou qu'il y a d'autres dimensions, mais il fait partie de ceux qui disent, écoutez, si on regarde théoriquement, là, c'est possible. Alors, restez ouverts à ça parce qu'il peut avoir de quoi. On a Stephen Hawking aussi qui est probablement... on a plusieurs qui disent là, que c'est le digne successeur de Albert Einstein, rien de moins. Stephen Hawking qui est un astrophysicien là, qui était lui aussi là, vraiment là, à un niveau là, extrêmement supérieur à tous les autres. Et lui aussi fait partie des défenseurs de ces théories-là. Fait que c'est pas, c'est comme je disais, là, c'est pas Roger dans son sous-sol qui dit « Moi, je pense qu'il y a d'autres univers, mais allez le dire sur Twitter. » C'est loin de ça, là. C'est très, très loin de ça. C'est des scientifiques qui ont une pensée théorique extrêmement élevée. Et ces scientifiques-là disent « Restez ouverts à l'idée, ça se pourrait. »
Ben oui, exactement. Donc, tu vois, avec tout ça, ben on peut s'amuser. Il y a une théorie que je veux partager rapidement, là, Jason. C'est drôle, puis ça donne un peu la chair de poule. C'est la théorie de la goutte d'eau.
Ah!
Alors, imagine, là, en gros, on fait le dézoom, OK? On fait le dézoom ensemble. Préparez-vous, imagination. On installe la Terre, le système solaire, la galaxie. Là, t'as l'univers avec des millions de galaxies. Là, on dézoome. Là, t'as plein d'autres univers. Puis là, en fait, quand tu dézoomes, en fait, on se rend compte qu'on est dans une goutte d'eau.
Hey, ça, là, honnêtement, là, c'est le genre de chose qui me fait flipper carrément, qui me fait... Écoute, j'ai l'impression de... Tu sais, quand tu sors de l'eau, là, puis que t'étais rendu au bout, là, tu sais, là, ton souffle, il était pas mal... puis c'est pas dangereux parce que t'es dans une piscine, fait que tu paniques pas, mais en même temps, quand tu sors, c'est comme... Puis t'as une espèce d'effet de... Pendant une seconde, t'as un effet d'apesanteur, de tournis, de vertige, tout ça en même temps, là. J'ai l'impression de faire de l'apnée quand je pense à ça. C'est oui, carrément oui, ça, là. J'ai l'impression d'être en état d'apnée, puis de faire... de revenir quand je sors de cette pensée-là. C'est fou.
Ben là, tu vois, attention, accrochez-vous, parce que là, c'est ça l'affaire. Là, on est rendu à la goutte d'eau, Jason. Là, imagine la goutte d'eau qui est dans un océan, sur une planète, et que la planète est elle-même dans un système solaire, qui le système solaire est dans une galaxie, dans un univers, et ainsi de suite.
Hey, ça donne le torticolis. On a l'impression de regarder partout en même temps. Puis, écoute, c'est... Quand on regarde là, une molécule, hein, il y a un noyau. Autour du noyau, il y a des neutrons, des protons. Il y a toutes sortes d'affaires qui tournent autour. C'est quasiment le modèle d'une galaxie ou d'un système solaire ou d'un uni. Ça peut même être le modèle de l'univers. On est peut-être aussi petit que ça, puis on le sait pas.
Exactement, c'est ça qui... moi, c'est pour ça que j'avais hâte d'arriver à ce moment-là. Je pense que j'ai réussi à le décrire.
Ça coupe le souffle.
Puis ça, c'est vraiment justement relié, comme tu le dis, c'est exactement ça, c'est relié au micro-monde, au macro-monde même. Quand tu regardes les molécules, quand tu prends un super microscope là, ultra performant d'aujourd'hui, 2021, ben, quand tu zoom, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est des micro-mondes. C'est des univers en soi. Là. Dans une goutte d'eau, tu as un univers là, tellement que c'est complexe, tellement que tu as de la vie là-dedans puis des micro-organismes minuscules. Donc, rendu là, si on fait le dézoom de notre... si on change un peu la perspective, ben, on se dit pourquoi pas. Peut-être qu'on serait nous-mêmes dans une goutte d'eau qui serait dans un océan, sur une planète, etc. Là, puis que... Ah là 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 là, c'est fou ça. Moi, ça me fait capoter.
Ben, écoute, j'avais vu un spectacle de Pierre Légaré. Pierre Légaré qui est décédé là, il y a deux semaines environ, là, qui est une espèce de philosophe qui faisait des spectacles d'humour, mais des spectacles d'humour où on se tape pas sur les cuisses à rire à gorge déployée. Il amenait ses blagues de manière très philosophique, très... souvent, il posait des questions. Et il avait fait ça, justement, puis il y a très longtemps, on parle de ça doit faire une trentaine d'années comme il faut, il était sur scène et il se levait le pied et disait « En dessous de mon pied, il y a un grain de sable. » Et dans ce grain de sable-là, et là, il se rapprochait du grain de sable. Et là, le grain de sable devenait un univers. Il se rapprochait, l'univers devenait galaxie, la galaxie devenait système solaire, le système solaire devenait planète. Et là, il disait « Sur cette planète-là, il y a quelqu'un sur une scène actuellement qui a le pied levé et qui parle du grain de sable qui est en dessous du pied. » Le grain de sable qui est un univers. Et là, et on le voyait de la manière qu'il le faisait. C'était incroyable. Et là, il terminait son gag en regardant par en haut. Puis il disait, il y a probablement quelqu'un qui a le pied levé actuellement. Puis il y a un grain de sable en dessous du pied. Puis là, il raconte que je suis en train de lever mon pied. Puis de raconter cette histoire-là. Et les gens riaient pas. Les gens étaient blancs dans la salle. Parce que c'est... Écoute, c'est saisissant de penser comme ça. Et on ne veut pas penser comme ça parce que ça fait peur. Parce que, écoute, si on est aussi insignifiant, ça veut dire que la personne qui va mettre son pied par terre puis qu'on est dans le grain de sable, ben on vient de se faire écraser carrément par la personne qui avait le grain de sable en dessous de son pied. On ne veut pas avoir ce genre de pensée-là parce que c'est une futilité de notre existence qu'on ne veut même pas imaginer, nous.
Ben oui, exact. Puis, tu sais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, quand on parlait, j'ai dit en début d'émission, Jason, je vais peut-être réussir à vous faire peur. Ben là, c'est là que j'arrive à la peur. Parce que, tu sais, la deuxième théorie du multivers, c'est celle des bulles de champagne.
Oui.
Ben, tu sais, imaginez là, des bulles là, pouf, 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 qui éclatent, là, puis qui apparaissent.
Ben, c'est ça.
Ben, imagine là, que c'est ça qu'il disait là, dans la deuxième théorie. C'est il y a plein de Big Bang partout en ce moment même. Donc, il disait pourquoi en ce moment, ça se pourrait très bien qu'un autre Big Bang voisin perturbe notre espace-temps et englobe notre univers en un claquement de doigts. Donc, on pourrait comme pouf, disparaître comme une bulle de champagne, Jason, sans même s'en rendre compte.
Ben, c'est ça. C'est elle est pas le fun, celle-là. Je l'aime pas, moi, elle. Je l'aime pas.
À mes cœurs, celle-là. Là,
ben oui, non, je veux pas. Je veux pas ça. Parce que, bon, on cherche un sens à toute notre vie, de notre naissance à notre mort, on cherche un sens à notre vie. Puis on essaie de faire d'avoir un impact, de laisser une trace, on fait des enfants, on essaie d'élever nos enfants pour qu'eux aussi hein, continuent à changer le monde pour le mieux, on l'espère du moins. Mais cette théorie-là rend ça totalement inutile et absolument futile. Puis pourquoi on fait ça? Ben, ayons du plaisir, puis amusons-nous, puis soyons méchants ou gentils, ou arrêtons d'aller travailler. On peut disparaître demain matin, on dirait que ça rend tout complètement inutile.
Ouais, ben tu vois, souvent, des fois, c'est un truc que je peux vous donner. Là, moi, je me sers des fois de toute cette théorie-là pour peut-être dédramatiser certaines choses, des fois, qui peuvent arriver dans la vie. Tu sais, des fois, quand t'es en colère, ta paye n'est pas rentrée, t'as des factures à payer, ou que ça peut être ton char qui a un problème de char, même des problèmes, ça peut être personnel, professionnel, n'importe quoi. Puis tu sais, ça te crée des émotions, tu sais, puis des émotions, là, t'es juste comme, j'aimerais ça, j'ai hâte que ça passe et tout. Ben, des fois, je fais juste utiliser toutes ces théories-là. Puis là, j'imagine la Terre qui tourne dans l'espace et tout. Puis là, j'imagine la civilisation humaine, le temps et tout. Puis je commence à penser à ça. Puis je fais juste me dire, dans le fond, profitons de la vie du moment présent. Amusons-nous.
Ah, écoute, notre existence est tellement courte dans l'ensemble de tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer après. Et l'impact qu'on a, oui, il est important parce que bon, il y a des gens avec qui on interagit, il y a des gens qu'on aime, mais dans l'ensemble de l'œuvre, je veux dire, on est de passage, là, puis que de passage, un très, très, très court passage. Des fois, il faut peut-être arrêter de se prendre trop au sérieux aussi.
Exactement, exactement. Donc, mais pour la note positive de tout ça, c'est qu'en ce moment, ben, tu sais, par rapport à toutes ces théories-là de disparition de l'univers et tout, ben, l'univers, tu sais, justement, une vie humaine, c'est à peu près 100 ans. Puis là, avec l'univers autour, on parle de milliards d'années. Il y a tellement peu de changements, en 5 milliards d'années que sur 100 ans, tu sais, et tout. Nous autres, en fait, dans, mettons, les 2000 prochaines années, ils disent que c'est clair qu'il ne se passera rien. Là,
non,
dans les
ça.
200 millions d'années également, il faudrait qu'on imagine le tout en milliards d'années pour qu'on...
C'est ça. Faut relativiser à un moment donné. Là, que bon, la bulle de champagne, sa durée de vie, par exemple, dans cette théorie-là, qui est très courte dans l'ensemble de la théorie, c'est peut-être 600 milliards d'années ou même 600 trilliards d'années en années humaines que nous, on calcule. Là.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le temps que la bulle apparaisse et disparaisse dans un verre de champagne au niveau universel, ben c'est ça, c'est des milliards d'années. Donc, il n'y a pas de stress. Là. On peut dormir tranquille à soir. Là,
bon. On peut finir l'épisode sans penser qu'on va disparaître avant la fin.
Oui, exactement.
Mais écoute, c'est quelque chose à réfléchir. Tout ça, hein. Là, on est dimanche matin, là, au moment de l'enregistrement de l'épisode. Là. C'est quelque chose. Un dimanche matin, s'asseoir puis jaser de ça, je te dis, je m'attendais pas à ça.
Ah non, c'est cool. Ben, c'est ça. Je me suis dit, tu sais, j'ai pris des notes et tout, mais je veux vraiment, j'aime plus partager toutes les petites théories qu'il y a à travers l'univers et le multivers. C'est intéressant. Tu vois, j'en ai une deuxième.
Ben oui, un autre.
Allons-y. Alors, la théorie de l'univers anthropologue, là, ou l'idée anthropologique, là. C'est quand même très cool, cette idée-là. Imaginez là, l'univers, bon, on est dans l'univers et tout. Mais pourquoi il y a autant de planètes? Pourquoi il y a autant de systèmes solaires? Ben, ils disent que ça serait peut-être, en fait, l'univers a été créé pour engendrer le plus de probabilités d'avoir la vie, à quelque part. Donc, c'est comme si l'univers existait avec le plus de probabilités, de possibilités de systèmes solaires puis de planètes habitables possibles pour créer la vie, et que parmi toute la vie qu'il y aurait dans l'univers, okay, c'est pour augmenter la chance d'avoir un être vivant qui est capable de prendre conscience de l'univers. Donc, c'est comme si l'univers avait été engendré pour un jour être capable de prendre conscience de sa propre existence, genre. Fait que les humains, on est rendu là
pas mal.
Oui, c'est ça. On serait comme l'espèce engendrée par l'univers qui serait mission accomplie. On a réussi,
mais
Jason.
Mais c'est pas exclu qu'il peut en avoir d'autres qui sont rendus encore plus loin dans le cheminement.
Non, exactement. C'est exactement ça. Donc là, la théorie de Star Wars et de tout ça, tout ça peut entrer en ligne de compte, les civilisations intelligentes, mais les civilisations intelligentes, en fait, l'être vivant qui est assez avancé intellectuellement pour prendre conscience que il est sur une planète, puis que la planète flotte dans l'univers, puis que blablabla, ben ça, en fait, c'est justement pour que, c'est un peu comme la conscience de l'univers, tu sais, qui crée tout ça, qui crée ces possibilités-là pour qu'on fasse genre, « Ah! Mon Dieu, on est dans l'univers! Aïe, aïe! »
Hey, ça, c'est le fun, ça.
Ouais, je l'aime beaucoup, celle-là.
Moi, je vois ça un peu comme, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit, « Garde, pour gagner 1 million, faut que tu fasses 6 avec un dé, mais qui met pas de règles. » Fait que là, je peux te dire, ben, je vais prendre un dé puis je vais espérer faire 6, ou ben, je vais prendre 100 dés puis je vais toutes les lancer en même temps. Fait que mes chances d'avoir un 6 sur 100 dés sont bien plus élevées que juste un dé, et je mets plus les chances de mon bord. Donc, j'augmente les différentes possibilités d'avoir le fameux 6 qui va me donner 1 million de dollars, par exemple. Donc, j'augmente les chances, j'augmente les probabilités. Les probabilités, plus qu'on a d'éléments, plus que le nombre d'issues augmente. Donc, en faisant plus de planètes, plus de soleils, plus de galaxies, on a augmenté le nombre de possibilités d'avoir de la vie, et de la vie qui est consciente de son existence et de sa place dans l'univers.
Exactement. Donc ça c'est vraiment très populaire, cette théorie-là, auprès des scientifiques là, dans le monde, parce que c'est très intelligent. T'sais. On va se le dire, là, c'est quand même cool. De la théorie justement anthropique, tu sais, de dire que dans le fond, pourquoi l'univers? Pourquoi? Tu sais, cette question-là, juste ça. Mais en fait, ça serait justement pour prendre conscience de lui-même, tu sais, à travers des espèces vivantes intelligentes, genre.
C'est très intéressant, ça, j'aime ça.
Ouais, donc voilà pour la théorie anthropique. J'avais hâte d'y arriver à celle-là.
ben oui, non, elle est vraiment le fun, celle-là, puis il n'y a rien de. Il n'y a pas d'apocalypse annoncé dans celle-là, c'est le fun, là.
Ouais, puis c'est ça, c'est la beauté un peu. C'est beau, tu sais, c'est joli de penser ça. C'est un peu, c'est très philosophique et tout, mais moi, je trouve que ça fait du sens, entre guillemets. Tu sais, c'est un peu banal, mais je me dis, Colin, ben oui, pourquoi? Tu sais, pourquoi? Ben, parce que justement, on est rendu à un stade où on peut comme faire, ah, ben, okay, on est dans un univers, puis là, dans le fond, l'univers qui engendre lui-même là, des êtres conscients. Je trouve ça bien nice.
Ben oui, non, c'est absolument, celle-là est bien fun, celle-là.
Sinon, ben j'approche, Jason, j'approche de la fin.
Oui, la dernière, c'est quoi?
Oui, c'est on va s'amuser avec un peu, on peut pas l'échapper, les trous noirs.
Ben oui, les trous noirs. Hey, écoute, l'évolution de la recherche sur les trous noirs avance très rapidement. Hein. Les trous noirs qui ont été, ça a été une théorie pendant longtemps. Stephen Hawking, qu'on a nommé tout à l'heure, fait partie de ceux qui ont plus ou moins prouvé par la théorie l'existence des trous noirs. Et dernièrement, il y a quelques années, on a réussi à photographier pour la première fois un trou noir qui a confirmé toutes les théories de Hawking, finalement.
Exactement, exactement. C'est fou. Puis là, t'sais, on peut pas, dans le fond, ne pas en parler parce que les trous noirs seraient peut-être, avec toutes les théories du multivers qu'on vient de parler, là, soit celle avec, il y a des personnes, il y a des vous différents dans plein d'autres dimensions, OK? Soit celle-là, ça c'était la troisième, soit celle où il y a des bulles de champagne, là, des Big Bang différents avec différentes gravités, différentes lois mathématiques, soit celle-là, ou la première qui est des univers qui sont tellement éloignés les uns des autres que, en fait, c'est juste plein d'univers dans l'immensité de l'infini. Ben, les trous noirs, ça pourrait être, il y a une théorie qui dit que ça serait des portes, des passages. Ça serait le seul moyen de passer d'un univers ou d'une dimension à l'autre.
Ah oui, ça, écoute, les trous noirs, hein, ça fascine les gens. Il y en a qui disent que c'est des raccourcis à travers notre propre univers aussi, hein, de la théorie. Là, souvent qu'on voit dans des films de science-fiction, c'est « Ah, mettez les coordonnées pour le trou noir dans Centaure, nous devons aller. » Puis là, ben, le vaisseau arrive au trou noir, puis vite, il rentre dans le trou noir, puis il sort à l'autre bout, puis il est rendu. Où ils voulaient aller, qui était à des milliards d'années-lumière, mais par le trou noir, ils sont allés instantanément.
C'est ça, ben, comme dans Interstellar, c'est exactement ça. Il y a des trous noirs, mais il y a aussi des trous de verre.
Oui, ben c'est ça. Et souvent, on associe les deux ensemble.
C'est ça.
Le trou noir, c'est comme la porte vers le trou de verre.
C'est ça, des trous de verre, c'est exactement ça. Ça serait des passages pour passer d'un point à l'autre. Plus petit, tu sais, un trou noir, c'est vraiment une étoile qui s'effondre sur elle-même, puis là, ça crée un genre de bug dans l'univers.
Ben, c'est
comme
ça.
Un bug quand, sur ton ordi, là, tu sais, comme bam! Ben là, c'est un peu ça que ça fait dans l'univers. Quand l'étoile s'écroule sur elle-même, en fait, ça gobe sangle, ça gobe tout pour aller où? On le sait pas.
Ben non, c'est ça, c'est que la gravité devient tellement, mais tellement élevée que ça absorbe même la lumière et c'est la raison pour laquelle on l'appelle un trou noir parce que il n'y a rien qui s'en échappe, y compris la lumière. Fait que rendu là, c'est extrêmement mystérieux. Mais oui, les trous noirs fascinent hein, de par. On dit que le trou noir, la raison pour laquelle on dit que le trou noir faciliterait, par exemple, le voyage rapide dans des distances là, inimaginables ou qui amènerait dans une autre dimension, parce que c'est une théorie qu'on voit, dans, comme tu as dit, dans plein de films de science-fiction, puis c'est réutilisé à outrance. Il y a une base scientifique à ça, c'est que le trou noir, sa gravité serait tellement élevée qu'il réussirait même à faire changer ou à modifier l'espace-temps autour de lui.
Oui, c'est ça, exactement. À un tel point que on serait capable, justement, quand on parle d'une porte, c'est justement ça. Si la théorie du multivers est véridique, ben pourquoi on pourrait pas se dire que la gravité est tellement, justement, intense que ça pourrait perturber comme l'univers et créer une genre de porte qui nous amènerait dans une autre dimension ou un autre univers où là, on pourrait tomber sur la théorie numéro 3, par exemple, tu tombes sur ton toi-même qui est rendu premier ministre ou
ben oui.
Whatever. Là.
Ben oui, parce qu'il n'a pas pris son café au Tim Hortons ce matin. Là. Il l'a pris au McDo. Mais tous les petits choix dans notre vie ont un impact. Hein, des fois, moi j'appelais ça, il y a l'effet papillon, le fameux effet papillon qui dit qu'un battement d'aile au Japon peut créer un raz-de-marée à New York parce que chaque effet, le battement d'aile du papillon fait qu'une personne fait telle affaire puis cette personne-là, ce qu'elle a fait, la réaction au battement d'aile va créer une autre réaction, un peu comme un effet domino. Moi, j'y crois à ça que ma décision ce matin d'amener mon café dans mon bureau, j'ai mon café, il est dans une tasse, la tasse n'est pas hermétique, j'ai pas pris le temps de le faire ce matin, si je l'échappe sur mon clavier, le clavier va être brisé, je vais devoir aller au magasin pour aller m'en acheter un. Puis là, la succession d'événements, tout ça, parce que j'ai choisi de prendre une tasse non hermétique, il y a une suite de conséquences incroyables. Là.
Ben oui. Ah ça, on peut s'amuser, là. Amusez-vous dans les prochains jours. Moi, des fois, je le fais, Jason, c'est exactement ça. Je suis en train de rouler sur la route, puis là, il y a du trafic, puis là, je vois la sortie, tu sais, une sortie, là, qui me dit, hey, je pourrais peut-être passer par là.
Ben oui!
Là, je me dis, je pourrais sauver le trafic, puis là, finalement, je décide de rester dans le trafic, je suis pogné une heure dedans, puis là, je me dis, hey, peut-être qu'il y a dans une autre dimension, il y a le moi qui a pris la sortie,
ben
je suis déjà rendu chez nous aussi.
Il est en train de prendre son café tranquille puis grignoter en avant de la télévision alors que moi, je suis pris dans le trafic.
C'est ça.
Ben, tu vois, la théorie 3, puis j'avais dit que j'y reviendrais, oui. Tristan, si j'ai une suggestion lecture à faire aux gens, c'est une lecture qui se fait sur 8 romans différents. Et c'est un jeune auteur qui commence, là, il devrait être connu bientôt. Là, Stephen King, c'est ça, Stephen King, qui a écrit, je vous niaise bien sûr, les 8 romans de la Tour sombre.
Ah.
J'ai rarement vu une manière, puis même si vous n'aimez pas ce que Stephen King fait en temps normal, la Tour sombre, c'est complètement atypique de ce qu'il fait habituellement. C'est une histoire de chevaliers, mais les chevaliers, en fait, c'est des ce qu'ils appellent des pistoleros. Donc, les chevaliers, c'est dans un monde post-apocalyptique, les chevaliers, c'est les gens qui ont des armes à feu, sont des chevaliers. Mais le monde post-apocalyptique, Tristan, avec sa tour sombre en son centre, je ne veux pas vendre le punch, là, mais c'est un monde parmi des milliers de mondes.
Oh.
Et là, il y a des moments dans l'histoire où le pistolero, Roland, le personnage principal, va s'en aller dans notre monde. Mais pas tout à fait notre monde. Parce que là, au lieu d'être du Coca-Cola, par exemple, ça va être du Nona-Cola.
OK, oui,
et
oui, oui.
Et au lieu d'être un Chevrolet, ça va être un Novolet.
OK.
Donc, on reconnaît notre monde. Là, tout d'un coup, il parle de quelque chose, puis on dit, bah, écoute, c'est parce qu'il n'a pas voulu dire la marque de commerce, tu sais, dans l'histoire. Puis là, whoop, il va dire d'autres choses. Puis il va dire, puis là, on se rend compte que, OK, il y a des différences. Parce que dans ce monde-là, la personne qui a parti de la compagnie d'automobile a décidé de l'appeler d'une autre manière. Les noms d'équipes sportives, ils s'amusent beaucoup avec ça aussi. Fait que là, ils arrivent dans un monde, puis là, un des personnages qui vient du monde, de notre monde réel, veut savoir, par exemple, si les Red Sox ont gagné la série mondiale au baseball. Fait que là, ils trouvent un journal de l'époque, puis là, ils reconnaissent pas les noms des équipes, puis ils trouvent ça bien drôle. Fait qu'ils se rendent compte, comme ça, qu'ils passent d'un monde à l'autre, et que c'est tous des univers qui sont parallèles, mais qui ont eu un cheminement différent.
Ah ouais, ah, c'est excellent ça.
Écoute, c'est la meilleure manière de jouer avec ça, c'est lui, puis c'est indétrônable pour l'instant. Là, je pense pas qu'il y ait personne qui ait réussi à un niveau qu'il a réussi. Je dirais que c'est son œuvre maîtresse. Il appelle ça lui-même là, son Seigneur des Anneaux à lui.
Ah ouais.
C'est épique, là. C'est sur une très longue période. C'est vraiment là, une histoire qui n'a absolument rien à voir avec les autres histoires qu'il a pu écrire, là, qui sont plus d'horreur ou de fantastique. Dans ce monde-là, c'est de la fantaisie fantastique. Là. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux, mais remplacer les chevaliers avec les épées par des cow-boys, là, des armes à feu qui remplacent les épées, mais ils ont le même rôle. Il y a l'ancien monde noble avec ces gens-là, ces chevaliers-là qui est tombé. Fait que c'est vraiment... Mais ce que je retiens, et dans le tout premier roman, si je ne me trompe pas, il y a un personnage qui arrive de notre monde. On ne sait pas d'où il arrive. On ne sait pas pourquoi il est là. Et à la fin, le personnage s'en va. Je ne veux pas donner le punch encore, mais il dit au pistolero, il dit « Fais-toi-en pas, il y a plein d'autres mondes. Il y a des milliers d'autres mondes comme celui-là. » Et c'est là qu'on comprend que « Oh, OK, on va jouer avec les réalités parallèles, avec les univers parallèles. » Et à partir de là, écoute, c'est que ça. Chaque personnage vient de son propre monde avec sa propre évolution de la planète et de la société. Il y en a certains que c'est l'opulence et tout le monde est heureux, tout le monde est riche. Il y en a d'autres qui sont restés dans la grande noirceur du début du 20e siècle avec le racisme, la ségrégation. c'est vraiment... Et ils s'amusent à recréer notre monde, mais plein de fois à travers l'histoire comme ça. Et... Quand tu as parlé de la théorie 3, écoute, ça a été instantané dans ma tête. Je dis, ben là, ça, c'est le pistolero, c'est la tour sombre, c'est exactement ça. Fait que chaque décision fait qu'il y a un monde différent qui se crée et le même personnage se trouve dans ces mondes-là. Alors, ils se croisent des fois. Les personnages se croisent dans différents contextes. Ils se voient dans un autre monde où là, ils ont pris une autre décision, puis ce monde-là est différent. Écoute, ça englobe quasiment l'épisode au complet d'aujourd'hui. C'est magnifique, là.
Oh wow, non, c'est fou, c'est intéressant. Tu vois, la théorie 3, justement, elle a été exploitée par plein d'œuvres. Celle-là, je la mets sur ma liste.
Oui, absolument. C'est un passage obligé dans les lectures, La Tour sombre.
Ben oui, La Tour sombre, excellent. Tu vois, ben rapidement, une petite suggestion, un petit film cocasse, très simplet, là. Ben, vous l'avez sûrement déjà vu, en fait, c'est Yesterday qui est sorti en 2019. Ça décrit un monde parallèle où personne ne se souvient des Beatles.
Sauf une personne, oui, qui reprend leur chanson. Et là, les gens disent qu'il a du talent incroyable, mais il fait juste rejouer les chansons des Beatles parce que lui s'en souvient. Oui, j'ai vu la bande-annonce. J'ai pas vu le film. J'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, il faut que je mette ça dans ma liste. C'est vraiment, ça a l'air très drôle.
Ah, si vous voulez, justement, de rester dans la thématique du sujet d'aujourd'hui, Yesterday, ça passe super bien. C'est un bon petit film en plus. Ça s'écoute bien. Là, puis c'est ça, il y a comme un bug dans l'univers. Puis là, il y a comme une panne d'électricité mondiale. Puis c'est ça, le lendemain de la panne, ben, il n'y a plus personne qui se souvient. Les Beatles, en fait, n'ont jamais existé. Puis même, ça, c'est le début. Là, fait que je ne vous cache pas trop de punch, là, mais les gens des Beatles, ils ont des vies différentes, genre.
Ouais.
Fait que, où est passé Paul McCartney ou...
Ben, c'est sûr, donc c'est un peu comme si c'était un univers parallèle où les Beatles s'étaient jamais rencontrés, ils avaient jamais décidé de faire de la musique, mais ça illustre bien ça aussi.
Ben oui, vraiment, vraiment. Donc, un bon film, là, Yesterday, qui décrit bien ça. Alors, voilà, Jason!
C'est essoufflant. C'est essoufflant comme sujet de pouvoir se projeter comme ça dans l'univers. Et ce qui est le fun avec ça, d'une certaine manière, c'est que je pourrais sortir n'importe quelle théorie complètement éclatée et on n'a pas de preuve que c'est faux ou que c'est vrai. Donc, on reste... C'est de la théorie à 100%. Donc, on n'a pas vraiment d'éléments encore pour prouver ou... De prouver le contraire ou le pour de n'importe quelle théorie. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de scientifiques de renom actuellement qui se prononcent en disant « Écoutez, on le sait pas, fait que c'est peut-être ça. »
Oui, exactement. C'est pas du tout banal ou de la science-fiction. Il y a beaucoup de science-fiction qui a été inspirée de ça, mais la théorie du multivers, tout ce que je viens de décrire là, ça reste, comme tu le dis, des théories qui sont étudiées par des véritables physiciens théoriciens qui étudient la physique quantique puis qui passent des heures et des heures à tous les jours dans leur bureau à essayer de trouver des réponses à ça, parce que si on trouve, bon, ça peut partir de la théorie des cordes, tout ça, tu sais, les dimensions, ça s'est relié à la relativité et à la gravité. Donc, il y a vraiment des physiciens qui étudient véritablement cette question-là pour peut-être trouver une réponse d'un multivers un jour.
Ben voilà. Et quand je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui énerve beaucoup les gens et qui n'a pas d'explication encore, là, scientifique. Pourquoi tout ce qui est solide est fait principalement de vide? Pourquoi je passe pas au travers de la table quand je mets ma main dessus? Il y a un paquet de choses comme ça qui, oui, scientifiquement, on explique là, le côté très technique de la chose, mais il reste encore juste ça, juste la composition de ma table est encore sujet à débat. Pourquoi elle est solide, ma table, et pourquoi elle est ma table?
Oui, oui, exact, mais tu vois... Juste pour pousser la note, là, tu vois, là-dessus, c'est tellement fou, là. Welcome in my crazy world, everybody. Genre, des fois, je passe trop de temps à penser à ça. Mais quand tu dis, quand ta main touche la table, quand vous touchez à quelque chose, là, si on zoom entre votre doigt et la matière que vous touchez,
il n'y a rien.
On se rend compte qu'il y a un vide, en fait, dans le sens que, tu sais, ça va être comme la surface qui n'est pas lisse, là, tu sais,
ouais,
votre doigt, ben, entre justement les petits pigments, là, en gros, entre la surface, en gros, ils disent que ça touche jamais complètement.
Non, c'est ça.
Toujours un petit vide, là, tu sais.
Absolument. Puis ça, c'est avec un agrandissement de millions de fois, mais ça reste que ma main sur la table n'est pas vraiment sur la table. Il y a du vide entre les deux. Et ça, ça ne l'explique toujours pas. À 100%, on n'a toujours pas d'explication absolument. Qui englobe tout ça. Là. Il y en a des explications, il y en a plein qui font du sens, qui sont correctes, mais il y a des petits éléments comme ça qui ne sont pas encore expliqués et explicables. Fait que là, on part de l'infiniment petit, mais on peut s'en aller à l'infiniment grand, et souvent, les questions se ressemblent.
Absolument, absolument. Non, c'est bien, bien fou tout ça. Je pense que un bon petit film de Walt Disney après cet épisode-là pour ça.
Ouais, de quoi de simple, là, hein? Ouais, de simple. Un film d'action avec Bruce Willis, là, qu'on se pose pas de questions, puis il manque jamais de balles dans son fusil, lui. Jamais, il a tout le temps en plein son fusil. Il a jamais de munitions avec lui, mais jamais. Il en manque jamais, Tristan.
Alors, c'est exact. Mais tu vois, en finissant Jason, c'est drôle parce que je me dis, tu sais, là, les vrais mathématiciens, là, les physiciens, là, tu sais, qui ont étudié justement tout ça pendant toute leur vie, je me dis, ça doit tellement être lourd, entre guillemets.
Ah, des fois, oui, ça doit être difficile d'avoir tout ce savoir-là.
Exact, dans leur tête, là, à tous les jours, comme ça doit être quelque chose, tu sais, des fois. Non, c'est ça,
je vais terminer avec... écoute, je t'ai parlé tout à l'heure de mon prof d'astrophysique, ou plutôt d'astronomie, qui était un astrophysicien là, au cégep. Et lui, là, il avait une peur et une phobie incroyable des trous noirs. Pour lui, là, c'était...
Ah ouais!
Parce que, bon, lui avait les connaissances nécessaires pour comprendre tout ce qui entoure. Nous autres, les trous noirs, ça se limite à... C'est une étoile morte, la lumière s'en échappe plus. Puis bon, c'est une gravité absolument incroyable, puis c'est quelque part dans l'univers. Mais lui, bon, avait une connaissance un peu plus avancée pour comprendre le fonctionnement de tout ça. Et il disait que ses pires cauchemars étaient qu'il y avait soudainement un petit trou noir qui apparaissait dans la pièce avec lui, et que le trou noir absorbait tout et devenait de plus en plus gros, et qu'il n'arrivait pas à s'échapper. Le trou noir le suivait, et plus il suivait, plus il absorbait de choses, plus il devenait gros. Et c'était, pour lui, là, une peur très réelle. Parce que justement, dans sa tête, il y a tellement de savoir et le côté catastrophique d'un trou noir, de tout ce que ça peut engendrer, s'il en apparaissait un, par exemple, là, très près de notre galaxie, pour lui, c'était une peur réelle, là, une véritable phobie, au point tel qu'il en faisait des cauchemars. C'est incroyable.
Alors, c'est fou, tu vois, en terminant sur cette note-là, là, c'est exactement ça. Il y a de la peur, justement, des astrophysiciens. Il y en a un qui était passé à Tout le monde en parle à un moment donné au Québec.
Oui.
Tu sais, Guy Lepage, c'est exactement ça qu'il avait dit l'animateur. Il a dit, coudon, on va-tu pouvoir faire un barbecue demain, tu sais? Parce que l'astrophysicien disait, vous savez, tu sais, à force d'étudier l'univers, on se rend compte que l'univers est très chaotique. Il pourrait avoir une collision d'astéroïdes à côté là, de la Terre, pas si loin, qui fait en sorte que demain matin, il y a un astéroïde qui frappe la Terre qu'on n'avait jamais vu. Il pourrait avoir l'explosion d'un soleil dans la galaxie, pas si loin, qui perturbe notre système solaire, qui fait exploser notre soleil. Il pourrait avoir des trous noirs qui englobent notre univers. À tous les jours, les astrophysiciens font des cauchemars sur leur connaissance.
Absolument. Absolument, et j'ai pas de misère à le croire. Juste cet épisode-là, c'est une heure là, qu'on parle vraiment avec des connaissances de base de tout ça, tous ces univers parallèles, ces réalités parallèles-là. Puis on a déjà le vertige un peu. Alors j'imagine quelqu'un qui étudie ça au quotidien, que c'est son métier d'acquérir ces connaissances-là et de les appliquer. Ça doit être lourd des fois.
Absolument. Donc, si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent, mon intention n'est pas de vous faire peur, mais sachez
ben
que
non.
Tout à savoir encore dans ce domaine. Donc, au contraire, on a besoin de scientifiques pour justement décortiquer tout ça. Donc, si je peux au contraire peut-être influencer, inspirer du monde à aller étudier là-dedans, moi, ça m'a toujours captivé. Puis, tu sais, on parle de l'étude de la science. Pour vrai, Jason, ça doit être fascinant.
Absolument.
D'étudier toute sa vie là-dedans puis de comprendre tout ça. Qui sait, peut-être que vous serez, chers d'Obisariens, d'Obisariennes, la personne qui découvrira la vérité de l'univers.
Sait-on jamais? Hey, merci Tristan. C'était un voyage interdimensionnel et intergalactique absolument incroyable aujourd'hui.
Ah ben, ça fait plaisir. J'ai plus aimé, tu vois, la deuxième partie. On dirait que la première partie, c'était le fun, mais la deuxième partie, on s'est gâté pas mal, puis j'ai eu du fun.
Oui, absolument. C'était très, très, très amusant à faire comme projection pas dans le futur, c'est carrément projection dans ce qui pourrait être, dans les théories, certaines sérieuses, certaines farfelues. Ça a vraiment été très agréable.
Ah, ben, je suis content. Puis là, la semaine prochaine, on y va plus dans l'Halloween?
Oui, on va regarder ça, là, pour faire un petit spécial Halloween pour la semaine prochaine.
All right. Ben, excellent.
Hey, ben, merci tout le monde d'avoir été là.
Ben oui, merci. Merci, Jason. Merci à vous.
Bye-bye.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Hypnodivers!
Des petits flocons de neige.
Des pneus à clous.
Tourne comme marteau.
Des pneus à fesses.
Prout.
Au garage de pneus et de mécanique, Gaëtan, on n'a pas compris nous autres non plus ce que ça voulait dire la publicité.
Depuis 40 ans.